Marie-Webb, Le précieux fléau. Livre 2, chapitre 3. Essayez d'y arriver, même s'il faut en mourir. À l'auberge, je ne fus pas aussi terrible que je l'avais craint. Les vieux s'en étaient allés avec leurs bestiaux, et les campardines étaient partis dîner. Il en est souvent ainsi. Quand vous appréhendez fortement quelque chose, et que cependant vous l'affrontez, vous vous retrouvez, en fin de compte, dans une situation plus aisée que prévue. L'aubergiste et sa femme, ne faisant pas grand cas de nous, nous envoyèrent la servante, personne simple et craintive comme la poney du meunier, et qui ne nous gênerait pas. Nous avions la salle pour nous seuls, car en ce temps, comme encore de nos jours d'ailleurs, les gens, l'hiver, rentraient tôt du marché à cause de l'état des routes. Le feu ardent et le thé brûlant me procuraient un peu de joie après la tristesse de cette maison et de sa lumière morte. Au bout de quelques instants, Gédéon se mit à parler, très lentement, comme si chacun de ses mots lui coûtait cher. « Voilà, prou. J'ai un marché à te faire. Et, si on veut pas trop tarder, je ferais mieux de commencer. Tu sais que Jancis et moi, nous nous fréquentons sérieusement. Oui. J'aurais jamais cru que je pouvais faire cas d'une femme comme je le fais d'elle, prou. Elle m'a bel et bien attrapée. J'avais pas l'intention d'aller plus loin que m'amuser un peu. Je comptais pas me marier, ni non plus coucher en dehors du mariage. Je voulais être honnête avec Jancis et aussi longtemps qu'on a eu notre dimanche après-midi, tout s'est bien passé. Quand on n'est pas empêché de se voir, le sang s'échauffe pas. Là, un empêchement et le sang est en feu. Avant que le vieux Beguidi nous découvre, nous étions contents et aussi innocents que deux œillets sur une tige.
Et c'est encore comme ça depuis, demandai-je.
Oui, il me regarda un moment curieusement et poursuivit. On dirait, ma proue, que t'as le don de double vue.
Mais non. C'est qu'un peu de bon sens.
Ben, maintenant que le vieux Beguidi m'a renvoyé, j'ai terriblement faim et soif de la belle Jancis. Autant même que de la maison ou de l'argent et tout ce qui va avec.
Pas plus?
Ben non.
Alors tu n'aimes pas Jancis pour de bon, Gédéon. Tu la désires charnellement, c'est tout.
Sacre bleu, c'est comme un prêche du pasteur. Voilà ce que ça fait à une femme d'apprendre dans les livres.
Il rit un peu, l'air gêné, et broie sa pipe. Moi, je savais bien que si j'avais un peu de sagesse, cela ne venait pas des livres, mais de la douceur du grenier.
Bon, grands mots ou pas, c'est pas la question, dit-il. Juste femme. Je la veux tellement que j'étais sur le point de tout abandonner pour elle, de l'emmener à Sarnes et de commander à Madame Guidi un de ses berceaux de joncs. Ben voilà, pour résister un peu, j'ai eu l'idée de t'emmener voir la maison pour en parler, et pour peut-être commencer à acheter quelques meubles.
Pour mieux durcir ton cœur, dis-je.
Oui, j'ai aussi pensé que tu m'apporterais de l'instruction dans quelque temps. Ça me donnerait un peu d'autorité au moment des élections, et qui sait, dans ces conditions, j'aurais pas des vues sur la fille du châtelain.
Miss Dorabella?
Pas moins, après tout, c'est qu'une femme. Elle n'a rien de plus à donner que n'importe quelle autre femme. Et qu'est-ce qu'un autre homme pourrait faire de plus? Quand même, il serait le seigneur du manoir. Que de faire un gamin?
Chut! Ils peuvent entendre à la cuisine!
Et ne pas être content de ces paroles bien rustres. Paroles vraies.
Peut-être vraies, mais personne ne les apprécierait plus pour autant.
Je sens dans l'idée. Depuis qu'elle m'a lancé son regard provoquant. Elle m'énerve et elle me plaît à la fois. Je me dis que, puisque c'est comme ça, je peux bien laisser Jancis. Faut soit que j'abandonne Jancis, soit que j'abandonne mes idées sur l'autre. Alors, Jancis pourrait se mettre avec le Samy du sacristain.
Cela pourrait la tuer, Gédéon. Et Samy n'est pas fait pour une femme. En plus, il est devenu pratiquement fou, à force d'apprendre ses textes.
Oh! Il l'apprendrait bien si je la laissais faire. Elle le met en colère avec ses façons coquettes et d'être la fille du sorcier et tout ça. J'ai bien vu nos deux expressions sur la figure du Samy qui en disaient long. La marier et la dresser, voilà ce qu'il voudrait faire.
Mais ce serait vraiment cruel, Gédéon.
Ouais, ça m'est venu quand on est parti pour le marché. J'avais envie de lui lancer la Jancis à la tête comme quand je jette une croûte aux tousseurs. Parce qu'il faut que ce soit une chose ou l'autre.
Et elle finirait par être contente quand il y aurait des enfants.
Encore que, Dieu leur vienne en aide. Il sera la tronche du Samy et des versets plein la bouche. Mais elle y verrait point de mal. En tout cas, voilà ce que j'avais décidé.
Bon sang, comme te voilà Dieu Tout-Puissant, dis-je l'air moqueur, sachant pourtant qu'il était bien capable de le faire. Il avait toujours été ce qu'on appelle un homme fort, ce qui, en même temps, veut dire un homme qui ne perd pas son temps à être gentil. Car s'arrêter pour offrir un peu de bonté implique souvent de se détourner de son chemin. Aussi, quand les gens me parlaient de tel grand homme ou de tel autre, je me disais en moi-même, quel est donc celui qui a été privé de sa joie pour que lui ait sa gloire? Sur combien de vieillards et d'enfants les roues de son coche sont-elles passées? À quel mariage son chant a-t-il manqué? Et à quel deuil ses pleurs ne se sont pas versées pour qu'il ait eu le temps de grimper si haut?
Mais maintenant, dit Gédéon, je suis décidé et je ne changerai pas d'avis. J'abandonne ni la Jancis ni la maison Lullingford. J'aurai les deux. Et je conduirai Jancis au bal de la chasse dans une robe qui se tient toute seule, avec un grand décolleté, comme celle d'une grande dame. Et je la ferai danser devant Mlle de Rabella. Et il n'y aura pas que ça. Mais quand toi et Jancis, vous serez dans la grande maison, et que les gens de la haute viendront vous voir dans leur coche.
Et mère, t'as oublié mère.
Et moi, un homme important, plus considéré que le châtelain, et pourtant pas aussi vieux, loin de là. Alors,
il resta un long moment plongé dans ses pensées. Bon, Gédéon, eh bien, alors?
Eh bien, si Dorabella Camperdine croise mon chemin avec ses mêmes yeux noirs et ce sourire écarlate, qu'elle fasse attention à elle, car je la prendrai, en dehors du mariage, s'entend. Elle paiera pour ce qu'elle nous a dit à toi et à moi aujourd'hui. Et alors que la pauvre fille du sorcier sera ma femme légitime, je ferai de la fille du châtelain une fille de rien.
Disant ces mots, il frappa du poing sur la table si fort que la chope de bière roula sur le sol.
Si tu te maintiens dans ce genre de manière, c'est plus qu'une bière qui risque de se renverser, dis-je. Tu parles comme les vieilles femmes du temple. Je suis comme j'ai été fait. Personne ne peut rien y faire.
J'entends encore Gédéon dire cela, avec brusquerie, d'une voix bourrue qui laissait échapper une grande désolation. C'était comme s'il avait voulu tout donner pour être ce qu'il ne pourrait jamais être, comme si, loin de Sarne et de sa longue emprise, son âme, en cet instant, luttait violemment pour se libérer d'elle-même. Il vous est peut-être arrivé de voir une libellule sortir de son enveloppe larvaire. Elle lutte et se débat avec tant de violence que vous pourriez croire qu'elle se meurt. J'en ai vu, qui, dans cette agonie, se tournaient et retournaient comme des contorsionnistes. Et tout ce déchaînement virulent, c'est pour être libre. Et cela leur coûte beaucoup de douleur, tout comme lors de la naissance d'un bébé. Et c'est si éprouvant à voir. Mais, pour notre Gédéon, c'était pire encore à observer. Il était assis là, près du feu agréable, avec la bière répandue sur les dalles, luisant comme du sang noir, et ne disant pas un mot durant plus d'une heure. Je le sais bien, parce que quand il entra dans sa léthargie, j'entendis la patronne de l'auberge dire à la servante de tourner la broche et de se presser avec la viande, parce que le souper devait être servi dans une heure. Puis tout devint tranquille, et je restais assise, les mains croisées, regardant en face de moi le sombre visage de Gédéon dans la clarté du feu. Je restais assise aussi muette qu'un merle en hiver. Il me semblait que la main divine était sur lui, luttant avec lui, pour le rendre autre que ce qu'il était, que ce que père en avait fait, et grand-père, et tous les autres, depuis ce Timothy qui avait eu la foudre dans le sang. Je voyais en imagination la maison neuve de Lullingford et la lumière errante, qui voulait enfin s'immobiliser pour réchauffer de sa clarté. J'espérais que tout irait bien pour Gédéon et qu'il finirait par prendre Jancis, non par vengeance, mais par amour, non par avidité sensuelle, mais parce qu'elle était la prunelle de ses yeux et sa fiancée chérie. J'aurais bien voulu aussi qu'il ait un peu de considération pour mère, et même pour moi, et que je ne sois pas son chien ou son esclave enchaîné. Après un long moment, j'entendis une voix de l'extérieur dire « Est-ce que tout est terminé ?» et une autre voix répondre « Oui, tout est fait. » Le ton me parut solennel, même si je savais qu'il ne s'agissait que du repas. Gédéon frissonna et se murmura à lui-même « Essayez d'y arriver, même s'il faut en mourir. » C'est alors que je sus que nous étions tous propulsés sur une route sombre, Gédéon, mère, moi, et maintenant, Jancis. Nous sortîmes céder nos chevaux et, conduisant les bœufs devant nous, nous partîmes pour la maison au travers d'un monde dur comme le roc. Le mutisme retomba sur Gédéon. La sortie était finie. On roulait sur les flaques gelées de la route et elles ne crissaient pas tant elles étaient devenues dures comme du fer. Quant aux haies, elles ressemblaient au fer forgé des grilles de la maison neuve de Lullingford. Ce fut au milieu de la nuit que nous passâmes près de l'étang de Sarne, où la glace s'était encore épaissie, tandis que les feuilles de nénuphar étaient prises dedans. « Ben, voilà un jour qui a coûté cher, » dit Gédéon. « Alors j'espère que tu t'es bien amusé. » Je savais que le gars souffrait de dépenser. La plupart des jours de marché, on emportait un crouton dans la poche et un peu d'eau. J'oubliais donc les petits vieux sur le banc. Et Mademoiselle Dorabella, pour ne dire que « Ah, ce fut merveilleux. Grand merci à toi, mon gars. »
« Et tu seras d'accord pour tout ?»«
Oui, j'ai pas déjà juré ?»«
Mais c'était avant Jancis. » »«
Je suis d'accord pour Jancis. Mais ce serait pareil si je ne l'étais pas. » »«
Non, si tu ne faisais pas le travail. » »«
Oh, je travaillerai. »
Je n'ai jamais eu peur du travail.
Tout à coup, un délicieux sifflement diffus se fit entendre, tombant du ciel éclairé de lune.
Arc, dit-il, et sept siffleurs. Mais je dis, sachant sa peur terrible de ces oiseaux fantômes, que je pensais que c'était plutôt un canard siffleur au bout de l'étang que l'on venait de déranger. Non, dit-il, non. Celles sept siffleurs, pour sûr. Mauvais présage.
Il était étrange que Gédéon dit cela. Elle avait plutôt l'habitude de rire quand on évoquait des signes ou des prédictions.
Aussi n'ai-je pu m'empêcher d'y penser quand je fus au grenier quelques instants plus tard.
Mère et Tivy avaient veillé pour nous, et mère était comme si elle avait lu dans le marc de café que nous nous étions noyés dans l'étang de Sarne. Pendant quelque temps, elle eut du mal à croire que c'était nous. Elle pleurait, se tordait les mains en disant « C'est pas eux vraiment, mais des esprits !» Alors je me sentis obligée de lui offrir l'un de mes cadeaux de Noël pour la réconforter. Elle était restée enfant en son cœur, ma pauvre mère. Elle était si simplement confiante que j'ai toujours pensé que ce serait aussi monstrueux de lui faire du mal que d'en faire à un bébé encore dans ses langes, ou un papillon de nuit voltant au crépuscule. Ah, quelle chose vilaine, quelle fourberie démoniaque que de trahir un cœur si confiant, de petites mains si tremblantes de supplication. Je dormirai bien dans ta chambre, Prou, dit Ivy. J'en serai contente parce qu'il fait bien froid pour dormir seule en ce temps de gelée. Elle lança à Gédéon un regard de biais, et je compris qu'elle était folle de jalousie envers Jensis. Et en vérité, Gédéon était fort séduisant avec son visage rougi de froid et ses yeux tout brillants des événements de la journée. Il lui aurait suffi de faire un signe de la tête, et Tivy l'aurait suivi. Mais il n'était pas de ceux qui tergiversent, et il s'était décidé. Aussi savais-je que ce serait Jensis ou personne. J'étais ennuyée que Tivy soit dans mon lit. Elle ronflait et reniflait dans son sommeil. Alors j'attendis qu'elle fût bien endormie. Je pris la chandelle et le vieux manteau de père en peau de mouton, qui me couvrait bien jusqu'aux pieds. Puis je montai au grenier pour écrire dans mon cahier. J'avais pris l'habitude, quand quelque chose m'avait donné trop de peine ou beaucoup de joie, de venir le compter par le menu. De plus, j'avais bien besoin de la paix qui séjournait dans le grenier, après un si amer contact avec mes semblables au-delà de Sarne. Moi qui n'avais pas d'amoureux, je voulais tant aimer les gens, ceux du moins que je pouvais rencontrer. J'étais comme une jeune femme debout à la croisée des chemins, le jour de la fête de mai, prête à offrir son bouquet au cavalier qui devait passer par là. Et voilà, l'homme à cheval passait droit devant, la renversait et la laissait sur le côté avec ses fleurs et tout, seule, dans la boue.